Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette semaine, l'émission est en direct. Nous sommes le lundi 30 juin 2025, il est 14h. Cette semaine, le tour des départements de France. Merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions. Merci à vous qui nous accompagnez financièrement. Cause Commune a besoin de vos dons. Vos dons sont aussi un mode d'expression. Cause Commune, c'est bien une association. Et pour donner, il suffit de suivre le guide sur la page d'accueil de cause-commune.fm. Parce que cette radio, ce n'est, n'ayons pas peur des mots, votre bien commun. Revenons au vélo et ses départements. Il y a un truc qui m'étonne encore, la pensée en silo autour du vélo, comme s'il y avait de meilleures façons de pédaler, des raisons de pédaler plus nobles que d'autres. Un événement qui divise pas mal les communautés du vélo s'appelle le Tour de France. Dénoncé par ses détracteurs comme un spectacle qui donne une fausse image du vélo, le Tour de France présente le vélo sous un angle sueur et douleur, larmes et vacarme, performance et grandiloquence, vitesse et grand-messe, quand la vision du vélo au quotidien ce serait tout l'inverse. Évidemment, certains reprochent au Tour de France le barnum, la caravane, les émissions de gaz à effet de serre, une grande boucle pas bien écologique. Quand le vélo est parfois présenté comme solution de transport frugal, écologiquement responsable, je ne crois pas qu'il soit pertinent d'opposer les deux. Évidemment, je pense que c'est intéressant de challenger ASO pour une organisation qui monitore et qui agit pour baisser son bilan carbone. Challenger n'est pas bâcher. Selon moi, toutes les pratiques, tous les usages du vélo méritent d'être promus. Les unes servent les autres. Et puis, faut-il penser le vélo comme une solution de transport ou comme une filière économique, comme un loisir ou comme une pratique sportive? Mieux se portera la filière économique du vélo ou de la bicyclette, plus grande sera son influence auprès des pouvoirs publics. Pour que le vélo se développe, nous avons tous intérêt à ce que l'industrie, le marché du vélo en France se porte bien. Un chiffre qui attire mon attention dans Les Échos, une interview de Greg Peter, patron de Netflix, interview qui date d'octobre 2024. Il affirme « Les recherches web pour acheter un vélo augmentent de 50% après la diffusion de leur documentaire sur le Tour de France. » Partons donc du principe que ce qu'il dit est vrai. Qui peut s'enorgueillir d'un tel pouvoir de traction mesuré? La livraison d'une piste cyclable génère combien de recherches web ou de clients qui poussent les portes de leur vélociste du coin? On peut penser qu'une piste cyclable, qu'une politique cyclable transforme de temps en temps un automobiliste en cycliste, un usager des transports en commun en cycliste, un piéton aussi en cycliste. Le Tour de France, un documentaire Netflix, un documentaire tel que la bicyclette raconté par deux fois ici dans Rayon Libre, c'est ce que j'ai envie d'appeler l'infraculture vélo. L'infraculture vélo, on va parler d'infraculture avec mon invité du jour. Il est le coordinateur national entre les départements et ASO, l'organisateur du Tour de France. Le travailleur de l'ombre qui permet d'accueillir les pro-cyclistes, hommes et femmes, pendant un mois sur les routes de France pour qu'ils nous livrent un spectacle sécurisé, que ces acteurs et actrices inspirent et créent des cyclistes, peu importe leur manière de pédaler. Bonjour André Bancala, merci infiniment de venir au micro de Rayon Libre aujourd'hui.
Bonjour, bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Alors, première question pour vous André, est-ce que vous avez l'impression tous les ans, avec votre métier, de donner envie au peuple du monde avec un S de pédaler?
J'espère bien que je leur donne envie, enfin moi, à mon niveau, hein. Moi je suis petit niveau sur la sécurité de la route du Tour et d'autres courses, mais oui, je pense que quand on voit, vous parliez de spectacle, vous parliez de démesure tout à l'heure dans votre édito, oui il y en a, mais il y a aussi l'envie donnée à des tas de gamins qui sont au bord de la route, à des enfants, à des familles, eh bien soit de devenir des grands champions, soit tout simplement de prendre une bicyclette le week-end et se faire une belle balade sur nouvelle route. Donc je pense que oui, le Tour de France, c'est un excellent moyen de donner envie à chacun de faire du vélo.
Les Tours de France, parce qu'on va parler du féminin et du masculin. Vous êtes aujourd'hui, André, le coordinateur des équipes techniques des départements de France sur le Tour. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsqu'on prépare la route du Tour, ça n'est pas exclusivement une préparation sportive. C'est une préparation qui se décline avec les gestionnaires de chaussées, les gestionnaires de route, à savoir en particulier les départements, puisque 95% de la route du Tour est une route départementale. Il faut donc travailler avec les départements, d'où ce partenariat qui existe entre départements de France, l'Assemblée départements de France et le Tour de France. On est donc sur des routes départementales. On prépare la route route, sportivement certes, c'est ce que fait ASO avec Thierry Gouvenou, Christian Prudhomme, qui sont les grands ordonnateurs du Tour. Et puis derrière, il faut une mise en musique. La mise en musique, c'est sécuriser, préparer, vérifier, faucher les accotements, purger les falaises, reboucher les trous, préparer la route pour qu'elle soit la plus homogène possible et la plus lisse possible, sans pour autant grever les finances publiques qui sont déjà bien mises à mal. Ça veut donc dire décaler des travaux, mais ne pas refaire des travaux spécifiques pour le passage du Tour, comme beaucoup le pensent. Et c'est faux. Un exemple, c'est vous avez un morceau, une portion de route qui est très fatiguée, qui doit être refaite, ça fait partie du service public. Au lieu de la refaire au mois d'octobre, eh bien, on va la refaire au mois de mai, c'est-à-dire juste avant ou en juin, juste avant le passage du Tour de France.
Donc vous êtes en train de me dire que grâce au Tour de France et grâce à votre travail, vous rendez la France plus belle. Là, en tout cas, les routes de France plus belles et plus praticables.
On y participe. De toute façon, les routes auraient été, quoi qu'il en soit, refaites ou remises en état à un moment ou à un autre. Donc, évidemment, de façon plus forte avec le passage du Tour, parce qu'on emploie, on utilise parfois des portions de route qui sont assez peu utilisées le reste de l'année. Ouais. Ça, c'est une spécificité.
Et alors, pour bien comprendre, vous, votre mission, elle commence quand? Une fois qu'il y a ASO qui est l'organisateur du Tour de France et des Tours de France, ils ont dévoilé les parcours, c'est souvent en octobre, donc vous, dès le lendemain, vous vous mettez en action en disant, oula, alors cette année, je crois qu'il passe dans le Tour de France homme, passe dans 35 départements si je ne me trompe pas, et dans 14 le Tour de France femme, donc c'est à partir de ce moment-là que vous bossez.
Donc dès le mois d'octobre, quand on a le parcours, on se met en relation avec les départements, avec les gestionnaires techniques, hein, ce qu'on appelle les messieurs routes, les adjoints, c'est-à-dire des personnes qui sont de métier, des personnes qui s'occupent aux directions des routes des différents départements concernés, qui s'occupent des routes au quotidien. Et donc pour le Tour de France, évidemment, ce sont nos contacts privilégiés. On va travailler avec eux, on va disposer des parcours qu'ASO, qu'Amorisport Organisation nous donne. On a donc le parcours détaillé, sorte de roadbook comme sur un rallye, et on sait qu'on va tourner à droite sur la RD machin, qu'on va prendre le giratoire à gauche et qu'on va terminer sur un rétrécissement. Donc ça, c'est extrêmement précis, c'est développé par ASO. Ces parcours nous sont confiés, et puis derrière, eh bien, ils sont mis en musique. Alors évidemment, ASO a plus que son mot à dire. Ouais. Et puis, il y a des échanges qui se font entre les départements, l'Assemblée des départements de France, moi-même, et surtout Amorisport Organisation, puisque de temps en temps, un département va estimer que le passage à tel endroit n'est pas judicieux pour telle ou telle raison. Ça peut être la présence d'un hôpital juste à côté, ça peut être également des services de secours qui auraient du mal à accéder à une partie de la ville, et au lieu d'aller, par exemple, tout droit, ils vont proposer de faire un crochet par la droite ou un crochet par la gauche. Ouais. Donc ça, ce sont des allers-retours qui peuvent avoir lieu avec l'organisation, même si, in fine, c'est le Tour qui est responsable de ses propres parcours.
Donc vous passez à la loupe les 4500 kilomètres des Tours de France pour faire en sorte que de 4500 kilomètres, chaque hectomètre parcouru soit optimisé pour assurer la sécurité des coureurs d'une part, mais aussi ne pas obérer ou le moins possible la vie des territoires.
Absolument. Alors,
entre nous, on n'est que tous les deux, il n'y a personne qui nous écoute. Est-ce que vous avez des départements qui ont une plus grande culture vélo que d'autres, qui sont donc plus faciles à gérer que d'autres sur le plan du savoir-faire?
Oui, il y a des départements bien plus faciles à gérer que d'autres, les départements de montagne. Oui. Je citerai, parce que c'est l'un de mes préférés, et c'est l'un de ceux qui travaillent le mieux, parce qu'ils aiment le vélo, parce que c'est une culture vélo, et parce que c'est un département de montagne, et donc un endroit où on peut vraiment en faire, soit un peu sur du plat, soit beaucoup sur de la montagne, ce sont les Hautes-Pyrénées, qui sont d'ailleurs partenaire du Tour également à titre direct. C'est-à-dire qu'il y a une subtilité d'organisation. Tous les départements concernés par le Tour passent par département de France, par l'Assemblée des départements de France, mais ils ont également la possibilité d'être également, de contracter directement avec le Tour.
C'est le cas avec les Yvelines ou les Hauts-de-Seine, par exemple, aussi.
Absolument, qui ont des départs régulièrement et qui ont des départs, c'est prévu dans leur convention. Et on a évidemment des départements qui sont également en prise directe avec ASO. Les Hautes-Pyrénées en sont partie, il n'y a pas que. Dans les départements qui travaillent bien, quand je dis bien, qui travaillent beaucoup, eh bien, les départements de montagne en général, on a l'Isère, on a l'Ain, on a la Haute-Savoie, on a les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Atlantiques, on a ces départements-là. Et puis n'oublions pas les massifs, dits massifs intermédiaires, qui ont tout leur intérêt sportivement et également en termes de désenclavement. Je pense à tous ces départements du Massif central, que ça soit l'Allier, que ça soit le Puy-de-Dôme, pour ne citer que, qui Puy-de-Dôme concerné cette année par une étape avec une arrivée au Sancy, oui. et qui met les petits plats dans les grands et qui s'y consacre depuis de longs mois.
Ça fait quasiment une trentaine d'années que vous exercez ce métier, si je me trompe pas, André, c'est ça?
29,
donc quasiment 30. Donc l'année prochaine, on fêtera vos 30 ans de métier. J'imagine que vous constituez une vraie bibliothèque, ouais, une vraie encyclopédie de à faire, à ne pas faire, d'apprentissage. Comment vous, justement, quand vous me dites, là, les Hautes-Pyrénées, ils ont un vrai savoir-faire, comment est-ce que vous emmenez ce savoir-faire dans des départements qui sont potentiellement un peu moins visités par le Tour de France pour faire en sorte que la culture soit transmise à ces départements qui reçoivent moins souvent le Tour de France? Comment vous faites ça?
Alors c'est relativement simple parce que on s'appuie sur une base documentaire, on s'appuie essentiellement sur évidemment le savoir-faire des uns et des autres, mais aussi sur des photos. Ouais. Que quand on est à 30 Tours de France, à 29, j'ai des photos que je prends chaque année, bon certaines sont les mêmes, avec un public qui de temps en temps s'étonne de voir prendre un panneau, ouais, ou de voir prendre une tête d'îlot ou un rond-point et dit ce type est un peu fêlé pour prendre ce genre d'éléments-là, alors qu'il y a de très jolies choses à côté. Mais en fait, c'est parce que ces photos-là, ces graphismes, ces photos permettent d'agrémenter des documents techniques et on les met à jour, on les actualise d'une année sur l'autre et on les diffuse à l'ensemble des documents, des départements, pardon, qui sont concernés. Ça va, par exemple, on va faire une photo d'un rétrécissement et on va expliquer par l'image comment positionner des ballots de paille en protection, comment positionner des séparateurs de chantier pour que le rétrécissement soit largement anticipé, pourquoi, ouais, on les disjoint et pourquoi on les colle pas les uns aux autres, ces séparateurs bleus et enfin blancs, ouais, et rouges, on les disjoint pour que le peloton, en cas de mauvaise trajectoire, puisse avoir l'échappatoire, ouais, et passer entre deux plots. On ne les leste pas non plus, donc ça fait partie des choses, ça c'est de la technique, on ne relie, ouais, même du sable ou de l'eau dedans, on n'en met pas, parce que si un coureur venait à le toucher, il vaut mieux que le plot bouge, il vaut mieux, oui, que le séparateur de chantier bouge, plutôt qu'il ne reste fixe et que le coureur se fasse mal.
Donc sans voilà, plafond. Oui. Est-ce que ça veut dire que, entre guillemets, est-ce que le travail que vous faites pour ces courses-là, c'est aussi une sorte un équivalent du CRMA? Je ne sais pas si vous connaissez le CRMA, mais le CRMA, il propose des plans d'infrastructure. Est-ce que vous travaillez aussi avec le CRMA pour ça, justement, pour cette autre pratique du vélo?
Non, on ne travaille pas avec le CRMA, que ça ni l'ADF, ni le département de France, ni moi. Nous, on est relativement autonome. On a appris sur le tard en 1996 quand on a commencé. Ouais. Moi, j'étais pas là en 96 pendant le tour, mais j'étais là juste après au mois de septembre. Après le passage du tour, j'ai commencé à travailler sur les documents et sur les bilans. Quand on a commencé au départ, on a commencé avec trois bouts de ficelle, une vieille voiture qui fumait et qui surchauffait dans l'école, des panneaux qui avaient été mis au point, je dis pas la va-vite, mais on avait mis au point quelques panneaux en disant bah, on va mettre ça en place, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça avait été fait en collaboration entre, à l'époque, le ministère de l'équipement, donc les DDE, oui, le service déconcentré de l'État, et la STF, la Société du Tour de France, devenue par la suite un Maurice Sport Organisation. Donc, à l'époque, on était sur, pour vous donner trois chiffres, qui montrent bien l'inflation et la manière dont il a fallu s'adapter également en termes de savoir-faire et en termes de mise en place. On avait au départ, dans les années, enfin au début du partenariat, donc en 1996, on avait 300 points durs. Points durs étant, ouais, des dangers. Un rétrécissement, un ralentisseur, une épingle, une maison saillante, etc. Donc on était sur 300 points durs. Cette année, on est à 2680.
Parce que l'aménagement du territoire a changé, ou parce qu'il y a plus de ronds-points, la France des ronds-points, c'est ce qu'on dit beaucoup, ou parce que le niveau d'exigence, les coureurs vont de plus en plus vite, et le niveau d'exigence et de sécurité est de plus en plus prégnant?
Alors je dirais 80-20 pour les explications, 80% en raison des aménagements et 20% en raison de l'évolution de la technique, de l'évolution de la vitesse des coureurs, ouais, et du cyclisme. On est sur une évolution des points durs qui ont été multipliés par 8 en 30 ans, ce qui explique pour nous une multiplication des panneaux que l'on va placer pour guider la course, les panneaux qui ont été multipliés par 6. Ouais. On est passé de 1000 panneaux à 6000 et on est passé, je disais, de 300 points durs à 2700, 2680. Donc c'est assez monstrueux. Alors, qu'est-ce qui a changé ?
Eh bien, on en parlera, André, on en parlera juste après la pause musicale, parce qu'il est 14h15, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez Rayon Libre, on est en ligne avec André Bancala, qui est coordinateur pour ASO sur les départements de France. Il nous prépare des belles étapes sécurisées. On va s'écouter, je ne sais plus ce qu'on s'écoute, Nice to Each Other, c'est trop bien, c'est très beau. Je vous propose ça, une jolie balade, et on se retrouve juste après avec André Bancala, tout de suite.
Cause commune, la voix des communs.
Retour Rayon Libre sur Cause Commune avec André Bancala, coordonnateur des équipes techniques des départements de France sur le Tour de France, sur les Tours de France féminin, masculin. Vous me disiez, André, qu'aujourd'hui vous identifiez en gros un point dangereux pour les coureurs tous les 1,5 km, hein, c'est ça ?
C'est ça, exactement ça. On est sur cette base-là. Ce qui en dit long sur les dangers de la route que vont rencontrer les coureurs.
Oui.
Ça veut dire que en gros vous allez chercher votre baguette de pain, vous avez à vélo, vous avez entre 1 et 3 points difficiles, 3 dangers pour aller chercher votre baguette de pain quand vous prenez votre vélo.
Est-ce que ça veut dire aussi, si on parle d'héritage, est-ce que ça veut dire que ces 6000 panneaux, toute cette signalétique que vous avez développée, elle pourrait demain être mise à disposition pour monsieur et madame tout le monde, justement, ou n'importe quelle communauté de communes, ou n'importe quel agglo qui se dit, tiens, je veux faire un plan vélo et une, alors même si le pédalage est différent, même si les enjeux sont différents, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être laissées en héritage sur des politiques cyclables?
Alors, en, en héritage les panneaux, la réponse c'est non, parce que ce sont des panneaux spécifiquement faits pour emprunter la route pour un peloton, c'est-à-dire prendre un rond-point à l'envers, prendre un rétrécissement en prenant le sens interdit, donc des choses qui sont évidemment non pas à déconseiller mais à interdire à toute personne sur la
normalement constituée,
une voiture ou un vélo. Donc là, il n'y a pas de là-dessus, on n'a pas de débat. En revanche, il y a un certain nombre d'aménagements qui aujourd'hui font florès et qu'on voit un peu partout, dont on peut se poser la question légitimement de savoir s'ils sont utiles ou pas. Et je donne l'élément en question, ce sont les chicanes. On a eu la période qui a été la période des ronds-points. On en a vu partir fleurir un peu partout. Chaque ville rivalisait d'ingéniosité pour mettre sur son rond-point un certain nombre d'éléments décoratifs, plus ou moins dangereux d'ailleurs quand un véhicule faisait un tout droit. Et puis après ça, après les fameux 35 000 ronds-points, enfin 3500, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a 35 000 je crois, une fois qu'on a eu terminé ça, on est passé au ralentisseur. Ça a été la deuxième mode, les années 2000. Ça continue aujourd'hui d'ailleurs. Mais on a mis, sachant que une grande partie d'entre eux sont d'ailleurs non conformes. Là, ça a été la période des ralentisseurs et des dodanes de tout style. Et aujourd'hui, ce sont des aménagements sous forme de chicanes pour casser la vitesse dans les entrées d'agglomérations, petits villages, à savoir ces espèces de terre-pleins. On est là sur quelque chose qui aujourd'hui se développe de plus en plus. À quel point qu'à Morisport Organisation, les tours sont en train de chercher des systèmes pour en amoindrir l'effet. Je m'explique. Soit on change d'itinéraire, et donc au lieu de passer dans le patelin, dans le village, on va passer à côté, on va passer par l'extérieur, c'est dommage, parce qu'on ne passera pas dans le centre-ville, mais comme le centre-ville est protégé par une ou deux chicanes en entrée, une ou deux chicanes en sortie, et pour compléter le tableau, une série de ronds-points et de ralentisseurs, on va passer par le contournement de la ville, en passant un peu plus par les champs. La deuxième chose, c'est de demander au maire de démonter, de l'amoindrir, de le retirer. Que lorsqu'on est sur les phases finales d'approche, à savoir dans les derniers kilomètres, où un tel élément urbain serait très dangereux pour un peloton lancé à vive allure.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sorte de neutralisation de la course le temps de traverser le village?
Et vous faites comment pour calculer vos écarts?
C'est une question ouverte. C'est pas à moi de trouver la réponse. Je pose la question.
ils vont tous. Ça, c'est comme le pescar en Formule 1. C'est-à-dire qu'ils vont en profiter. Alors, ils ne le font pas, mais en Formule 1, ils en profitent pour changer les pneus, pour retirer un ou deux tire-off, pour se remettre en axe, pour vérifier que tout va bien. Ou pour se restaurer. J'imagine assez mal un Pogacar avec quelques secondes d'avance talonné par un Vingegaard, dire « Ah, on arrive dans un patelin, tout le monde en rend derrière la voiture de Christian Prudhomme, et on redonne un départ derrière. » C'est peu réaliste.
Oui, parce que le circuit du Tour de France, c'est la route et c'est pas le circuit, un circuit fermé avec le Mans. Exactement.
Tout à fait.
Est-ce que...
Donc la solution, elle consiste, alors je disais, soit on les retire, ça c'est exceptionnel, soit on passe à côté, c'est pas terrible, soit on les aménage, c'est pour ça qu'on est là.
D'accord. Pareil, j'ai une autre question pour ceux ou celles qui n'aiment pas le Tour de France. On voit tous les ans des photos de pistes cyclables occupées ou coupées le temps d'installer le barnum. Est-ce que c'est un point sur lequel vous êtes sensibilisé, sur lequel vous travaillez pour porter des messages du type « gênons le moins possible les infracyclables le temps de l'étape »
Oui, on fait attention à ça, mais alors... Si vous voulez, la présence d'une piste cyclable sur la course est un élément de danger. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'entrée de la piste cyclable est parfois, pas toujours, mais je dirais même souvent matérialisée par quelque chose au sol, qui peut être quelque chose en relief. C'est une bordurette, c'est un mini-îlot directionnel pour guider les cyclistes pour prendre un rond-point en longeant bien le rond-point. Ce genre d'élément est extrêmement dangereux parce que si le premier coureur va le voir, si les premiers du peloton vont le voir et vont l'éviter, ceux qui sont dans le peloton ne vont pas l'éviter. Sans plafonner, le petit îlot qui est censé orienter, guider et protéger le cycliste tout seul quand il va faire sa balade du dimanche ou quand il va travailler le matin et qu'il n'est évidemment pas en peloton. Donc là-dessus, on les occulte. Donc en fait, on va les fermer, ces pistes cyclables. On va rétrécir la chaussée largement en amont et on va dire cette piste cyclable, elle est condamnée et là évidemment elle n'est pas prise par les coureurs professionnels, ce serait trop dangereux pour eux.
Je me rends compte qu'il aurait fallu faire une émission d'une heure avec vous André, parce que j'ai encore plein de questions, mais il est 14h25, les auditeurs et les auditrices ils écoutent Rayon Libre, on est sur Cause Commune, et 14h25 et ben c'est l'heure de Abel Guggenheim. J'aurais une dernière question pour vous André, c'est vous faites des relevés de température et aujourd'hui je vous interroge, on est en temps de canicule et ça m'intéresse de savoir ce que vous constatez vous sur la route quand vous relevez les températures sur le tour. Mais pour l'instant, on s'écoute Abel Guggenheim.
Bonjour. Retour dans le passé aujourd'hui. C'est une récente discussion sur Internet qui m'a remis en mémoire ce dont je vais vous parler. Je m'en souvenais bien, mais je pensais que c'était plus ancien. Je n'avais pas l'impression que c'était si récent. Saviez-vous que jusqu'en 2014, les questionnaires du recensement de la population en France confondaient les vélos et les motos? Pour répondre à la question 21, quel mode de transport principal utilisez-vous le plus souvent pour aller travailler? Il y avait quatre possibilités. Marche à pied, deux roues, voiture, camion ou fourgonnette, transport en commun. La Fédération des usagers de la bicyclette, qu'on appelait alors la FUBICI et qui est aujourd'hui la FUB, s'en est émue et a demandé à ce que les vélos et les deux roues motorisés soient distingués en lieu et place de la case deux roues. Plusieurs de ces associations ont aussi travaillé activement sur cette revendication, en particulier Vélobuc sous l'impulsion de sa présidente Britta Boutrich-Stadelmann. Ça a été la grande affaire du début des années 2010 et ça a duré plusieurs années. C'était devenu presque un feuilleton auquel Olivier Razemont, Isabelle Le Sens ont consacré plusieurs articles. Geneviève Laferrère, sa présidente, m'avait demandé de représenter la FUB à une série de réunions au CNIS, le Conseil National de l'Information Scientifique, qui s'occupait de la mise au point de ces questionnaires pour l'administration française. La FUB observait qu'il était déjà aberrant en 2000, lors de l'élaboration de ce questionnaire, de confondre deux roues motorisées et vélo, alors que les politiques nationales encourageaient le développement du vélo en ville et pas du deux roues motorisées, alors que les politiques nationales, on nous objectait le coût, la complexité du changement et plein d'autres obstacles. Dans un rapport sur le sujet, le CNIS précisait à la question sur le mode de transport domicile-travail, isoler la modalité vélo et la séparer des deux roues motorisées, l'impact en centimètres sur la longueur du questionnaire est de plus 0,5. Tout allongement du questionnaire doit être pris en compte, expliquait François Clancher, président du CNIS. En réponse à une lettre de Geneviève Laferrère, il écrivait: le CNIS a émis toute une série de recommandations dont la mise en œuvre n'est pas simple, car il faut modifier l'ensemble du questionnaire, le tester auprès des ménages et s'assurer de la possibilité de diffuser des données comparables à celles du questionnaire actuel partout où c'est possible. Tous ces travaux méthodologiques prennent du temps et réclament des moyens importants. Je me souviens qu'un des arguments les plus importants qu'on nous opposait était que modifier un élément d'un questionnaire rompait la continuité des données et empêchait de faire des comparaisons sur plusieurs années. Nous rétorquions que c'était justement pour ça qu'il était particulièrement urgent de pouvoir démarrer le plus tôt possible des séries homogènes pertinentes. Ça ne fait donc que 10 ans, depuis le recensement de 2015, qu'on distingue les vélos des roues motorisées dans la statistique en France. Pour vous permettre, si vous le souhaitez, de replonger dans ce passé pas si lointain, on mettra sur le site de l'émission plusieurs liens vers les documents et articles que j'ai cités. À lundi prochain.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Merci Abel. Les relevés de température, André, que vous relevez depuis 29 ans, elles indiquent quoi ?
Que ça monte, que ça augmente, tranquillement, mais ça augmente. Alors si on prend les relevés de température sur 29 ans, si on fait la moyenne des 10 premières années, on était à 23,8 degrés de moyenne. Ouais. Et sur les 10 dernières années, on est à 24,7 degrés.
Donc quasiment 1 degré. Et vous me disiez...
0,8 d'écart. Ouais.
Et vous me disiez, le plus gros, la température la plus haute élevée, elle était autour de 60 degrés, c'est ça?
C'était une température sur la chaussée. Que je viens de vous donner, c'est température en l'air.
Ouais.
Prise le matin, au départ de l'étape, à mi-étape et à la fin de l'étape.
Ouais.
Et même chose pour les températures de la route, où la température de la route, les 10 premières années, était de l'ordre de 33 degrés, et on est aujourd'hui à 39. Donc on a une augmentation de 6 degrés au niveau du sol. Un record de température de 63 degrés au sol, qu'on avait relevé en 2010 du côté du Jura, et le record précédent était de 61 degrés, et c'était au contre-la-montre Gaillac-Cap-Découverte. À l'époque, il faisait une chaleur chaleur à crever. Je me souviens très bien, on était dans cette cuvette à Cap Découverte, on ne respirait pas, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs.
Oui.
On est vraiment, donc là il y a véritablement une augmentation de la température de l'air et du sol. Ça, c'est, je dirais, la statistique le prouve, hein, même de façon tout à fait neutre. Ce qui a aussi des incidences sur la manière de déroulement de la course.
Évidemment. Il est 14h30, il faut que je rende l'antenne, mon cher André. Merci beaucoup, en tout cas. Et effectivement, ces températures relevées, elles peuvent expliquer pourquoi les coureurs, aujourd'hui, ils ont tous des chaussures blanches, notamment pour éviter d'avoir les pieds qui brûlent. Auditeurs, auditrices, ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée, mais un jour de canicule, savoir renoncer à sa sortie, ce n'est pas gâché, c'est juste être prudent et raisonnable. Vous pouvez encore pédaler pour, par exemple, aller au boulot. Prenez votre temps, c'est tout. Et n'oubliez pas de boire. Merci encore, André, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent Tour de France, évidemment. Restez sur 93.fm, Cause Commune. Il est 14h31 maintenant. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.